En deux mots de présentation, si vous voulez. J'interviens ici en tant que donc consultant sur les questions de politique énergétique et d'efficacité énergétique. Surtout, mon expérience, bon, d'une part, j'ai été directeur général de la FME à l'époque des années 80, et d'autre part, depuis, j'ai beaucoup travaillé au niveau européen et surtout international, et récemment en Chine, et ça peut donc donner lieu à des questions sur justement ces questions internationales qui sont quand même très importantes dans la problématique qui a été discutée aujourd'hui. En ce qui concerne ce qui nous a été présenté et qui a été discuté, et un point qui m'a paru extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, la question qui était sous-jacente à toutes ces, à la fois la présentation et les discussions, c'est la question de la gouvernance. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement discuté, et je pense que c'est légitime sur des questions techniques, mais vraiment comment les choses s'organisaient et comment on pouvait faire avancer les choses de façon convenable, que ce soit au niveau territorial, au niveau des villes, au niveau des différents acteurs. Et pour moi, cette question de la gouvernance, c'est-à-dire du fonctionnement des institutions et de leurs relations avec ce qu'on pourrait appeler les citoyens, est tout à fait fondamentale. Alors, premièrement, une gêne considérable de ma part sur le fait que, sur la notion même de plan climat. Et je m'explique, je comprends l'attrait du titre, les changements climatiques sont un problème extrêmement important, donc il faut qu'on s'en occupe. De là à passer à un plan climat, j'y vois un risque, c'est qu'on fait des actions sur, disons, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour être un problème qui est presque considéré comme sectoriel. On a une responsabilité sur la réduction des gaz à effet de serre. On part de là, alors on explique aux gens dont on veut la participation, les risques liés au changement climatique, et on dit voilà les actions qu'il faut faire. On s'aperçoit très vite que ces actions sont en fait des actions qui s'adressent à l'aménagement du territoire, qui s'adressent à l'urbanisme, qui s'adressent au transport, qui s'adressent à la construction des bâtiments, enfin aux bâtiments, que ce soit les logements ou que ce soit les secteurs tertiaires. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive très vite au fait que c'est une politique transversale qui touche absolument tous les secteurs et que ce n'est pas du tout une politique sectorielle. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut traiter à part. Et donc, c'est pareil quand on dit une personne qui a un niveau soit d'une entreprise, soit d'une collectivité est responsable du développement durable. C'est pareil, c'est un peu dangereux. Et moi, je dirais plutôt, c'est une responsabilité que les questions de climat et les questions de développement durable soient prises en compte dans l'ensemble des activités et des responsabilités, l'ensemble des responsabilités et des activités, c'est-à-dire dans l'aménagement du territoire, les différents thèmes que j'ai évoqués. Et c'est vrai que c'est un problème de gouvernance, parce qu'à ce moment, le risque actuellement, et vous, à mon avis, vous le vivez, et plus le territoire est petit et a peu de gens, et plus chacun participe à des tas de réunions et de rédactions de rapports qui sont les différents schémas, plans, etc., qui très souvent se superposent, parce que vous allez avoir un plan de transport, puis dans le plan climat, vous avez un chapitre transport, et ce sont les mêmes qui vont s'assurer que c'est à peu près cohérent. Donc il y a là quelque chose. Alors vous retrouvez je retrouve cette question au niveau international dans justement l'organisation des gouvernements, c'est-à-dire il y a un ministère de l'industrie, il y a un ministère de l'équipement, il y a un ministère du logement, il y a un ministère de l'industrie, à l'intérieur de l'industrie il y a un ministère de l'environnement, et ce ministère de l'environnement a une responsabilité, un service développement durable qui le pauvre les pires difficultés à avoir une influence sur le ministère des Transports, le ministère de l'Équipement, le ministère du Logement. Premier inconvénient, donc, de l'organisation des choses. Deuxième inconvénient, la masse de travail qui est fournie pour réaliser tous ces plans, qui quelquefois sont des choses absolument énormes et que, franchement, pas grand monde ne lit. Et donc, il faut que, je pense que s'il faut faire des plans climat, bon, il faut très vite discuter justement sur les moyens à mettre en œuvre, les types d'actions qui sont en fait, qui se répartissent suivant les secteurs dont j'ai parlé, et très vite, quels sont les moyens humains et les moyens réglementaires, financiers, etc., qu'il faut mettre en œuvre pour que la chose réussisse. Troisième point, cette horizon. Il y a donc une transversalité du problème. Il y a aussi le fait qu'on ne peut pas actuellement, et c'est aussi un peu un reproche qu'on peut faire aux négociations internationales, on ne peut pas réfléchir et discuter uniquement de la question climat. Pourquoi ? Parce que la première préoccupation des responsables politiques, des élus et des gens, des citoyens, reste, et c'est légitime, et c'est vrai dans les pays, par exemple, en développement ou émergents, mais c'est vrai aussi chez nous, restent les questions économiques et sociales. La question du pouvoir d'achat, la question de l'emploi, la question des activités, etc. Vous voyez que les responsables politiques ou les responsables administratifs, etc., c'est quand même leur première préoccupation. Et donc, on ne peut pas mettre ça de côté en disant, moi, ici, je discute du climat. Parce que, d'abord, c'est hypocrite, et ensuite, ça ne marchera pas. Puisque les gens vous diront, vous avez tel projet climat, alors, je suis désolé, la priorité est ailleurs. Et donc, il faut absolument prendre en compte l'ensemble des obligations et des contraintes pour définir un schéma ou un plan de développement qui prenne l'ensemble de ces préoccupations. Ces préoccupations, c'est donc le développement économique, les questions sociales, le développement social, les contraintes énergétiques, qui sont fondamentales, ça a été dit, le prix du pétrole, la limitation des ressources, le fait que si on continuait comme aujourd'hui, il faudrait 4 planètes pour répondre aux besoins de l'ensemble de l'humanité, puisqu'aujourd'hui, pratiquement, on ne répond qu'aux besoins des pays riches, et eux-mêmes ont des problèmes. Troisièmement, c'est pas des ordres de priorité. Hein. Troisièmement, la question climatique, réduction des gaz à effet de serre. Et par conséquent, c'est par rapport à cet ensemble de contraintes et d'obligations qu'on doit définir des plans d'action. Des plans d'action sur les transports, sur les logements, sur la ville, etc. Et d'une certaine façon, je dirais on a une chance entre guillemets, c'est qu'il y a une certaine convergence de ces contraintes. Imaginez un instant que le pétrole ne pose aucun problème. C'est-à-dire que la quantité de pétrole soit parfaitement limitée, que ce soit une source d'énergie, il suffit de faire un trou et avoir du pétrole, et que le pétrole, par conséquent, ne soit pas très cher, ne soit pas une contrainte. Vous vous rendez bien compte qu'à ce moment-là, la plupart des discours sur le climat et le fait qu'il faut absolument réduire la consommation de pétrole auraient peu de chances de passer. Et donc, on arrive à une convergence qui n'est pas du tout, enfin, je dirais c'est presque un hasard, une convergence entre la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour des raisons de climat. Le gaz carbonique et le méthane étant les deux plus importants, on pourra y revenir, et la nécessité de réduire les consommations d'énergie du fait des contraintes énergétiques. Et ça, on le vit déjà nous, mais par exemple un pays comme la Chine se donne des impératifs d'économie d'énergie, pas à cause du climat, mais à cause de la contrainte énergétique, puisque la Chine est obligée d'importer du pétrole et sait très bien qu'elle ne pourra pas importer au même niveau que les niveaux occidentaux, et par conséquent fait des programmes d'économie d'énergie qui lui permettent de ce fait de prendre des engagements sur les réductions de gaz à effet de serre. Troisièmement, donc, on passe assez facilement, et on le voit bien dans les résultats des plans climat, qui vous disent, après avoir fait des tas de choses, finalement, qui vous disent l'important, c'est un, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire le même service énergie, le même service rendu et même l'amélioration du service rendu, par exemple le confort, etc., avec des consommations très inférieures d'énergie, et on sait le faire. Deuxièmement, le développement des énergies renouvelables, puisqu'elles apportent une réponse à la fois à la contrainte énergétique et à la contrainte climatique. Et donc, on voit se dessiner des programmes d'action sans faire des calculs très compliqués. Troisièmement, là aussi, un avantage, dans la plupart des cas, il peut y avoir quelques exceptions, mais vraiment, elles sont assez difficiles à trouver, ces programmes d'efficacité énergétique, rénovation des logements, construction de bâtiments moins consommateurs d'énergie et développement des énergies renouvelables, sont créateurs, d'une part représentent des bénéfices économiques pour ceux qui les mettent en œuvre, puisque économisant de l'énergie, on a moins de dépenses énergétiques et il y a donc une compensation du fait de ces actions. Et deuxièmement, sont pourvoyeurs de nouvelles activités et d'emplois. Par conséquent, par rapport à l'exposé d'une politique climat, il vaut beaucoup mieux dire « je propose » ou « nous proposons » ou « une collectivité territoriale propose un plan d'action sur les transports collectifs, la construction des bâtiments neufs, la rénovation des bâtiments, etc. » qui apporte des réponses positives sur l'ensemble de ces questions. La question économique, la question sociale, la question énergétique et la question climat. Et je pense qu'à ce moment-là, pas l'acceptabilité, mais l'adhésion des différents acteurs est beaucoup plus facile. Parce que cet acteur soit un citoyen, je dirais, sans responsabilité particulière, ou bien un responsable de collectivité locale, territoriale ou nationale, il verra une cohérence dans ce programme d'action qui est proposé. Et ne réagira pas en disant « Ah, c'est une action pour le climat, pour moi, ce n'est pas prioritaire. » Alors, bien entendu, après, il faut rentrer dans le détail. Je pense en particulier que la question de la précarité énergétique touche de plus en plus de gens, et je ne parle pas même pas des pays en développement les plus pauvres, et qu'à ce moment-là, il faudra probablement, dans les politiques mises en œuvre et dans les politiques d'incitation, avoir un regard particulier sur ces catégories de citoyens ou ces catégories de ménages, ce qui d'ailleurs se fait dans un certain nombre de pays. Ce n'est pas quelque chose d'absolument impossible à imaginer. Donc, ça entraîne, si vous voulez, qu'au niveau de l'organisation du travail, il y ait bien cette synergie entre les différentes contraintes et les différentes obligations et les plans d'action qui sont proposés. C'est un interlocuteur qui n'est pas d'accord. Non, ça va. Et alors, maintenant, si on regarde au niveau de la question qui était plus particulièrement discutée, si on regarde au niveau d'un territoire, franchement, je pense que effectivement, par rapport à ces plans d'action, il faut aller très vite à la question des plans d'action. Et vous voyez bien que si vous prenez une responsabilité régionale ou départementale ou municipale ou au niveau des agglos, on est obligé de distinguer entre un travail d'élaboration d'un plan ou d'un programme relatif au territoire, dans lequel vous pouvez dire « bon, ben, il y a, voilà à peu près notre niveau d'émission, à mon avis, ce n'est pas très grave si ce n'est pas très précis. On sait très bien que les secteurs qui sont la cause de ces émissions, c'est ça, ça et ça. Quand on passe aux actions, on passe très vite aux actions, effectivement, d'efficacité énergétique ou d'énergie renouvelable. » Et pour l'application de ça, vous avez une déclinaison de programmes qui peuvent être des actions d'information et de conseils, des actions des informations, des conseils de caractère technique, des incitations financières, etc. Donc vous avez un niveau à ce moment-là territorial, et puis vous avez le niveau qui est directement de la responsabilité de la collectivité au sens politique ou administratif, qui doit effectivement commencer par son propre patrimoine, ensuite agir sur les secteurs qui dépendent directement d'elle. Je pense que bon, les régions, c'était les lycées, les municipalités, c'est les crèches et les écoles, etc. Donc, vous pouvez décliner en fonction des différentes responsabilités, des plans d'action qui commencent par ce qui est directement sous la responsabilité, par exemple, du conseil régional ou de la municipalité, et puis qui s'étendent, par exemple, à travers la création d'une agence locale de l'énergie ou de l'énergie et du climat, sur des actions auprès des citoyens qui sont effectivement d'abord de l'information, etc. Alors, pour que ça fonctionne, et ça a été dit ce matin, il faut bien prendre conscience qu'effectivement, la question énergétique, puisque c'est quand même la partie la plus importante des actions qu'on peut faire, la question énergétique a très fortement évolué depuis, je dirais, les 30 dernières années où on a commencé à mettre en place ces politiques dites d'action sur la demande. Il faut bien voir qu'avant le premier choc pétrolier, la politique énergétique était uniquement la politique des producteurs d'énergie. C'est-à-dire qu'il y avait une demande qui croissait du fait de la croissance économique, puis il fallait répondre, et donc répondre par une offre de plus en plus croissante de pétrole, d'électricité, de gaz, etc. À partir du premier choc pétrolier, et en particulier les pays européens, ou les États-Unis, ont mis en place des politiques d'économie d'énergie ou d'efficacité énergétique qui consistaient à agir sur la consommation. Ça a été une révolution culturelle, parce que c'était pas du tout accepté à l'époque. Et on s'est rendu compte que les bénéfices à tirer des actions sur la consommation étaient absolument considérables et bien supérieurs à ce qu'on pouvait imaginer. Je vous donne le chiffre, ce qui s'est passé pour l'Europe, sans contrainte insupportable particulière, c'est que si l'Union européenne, les 15, hein, puisque c'est les pays qui sont à peu près homogènes, les 27 c'est plus compliqué parce qu'il y a des pays qui viennent de notre type d'économie centralisée d'Europe centrale, mais pour les 15, si les 15, l'Europe des 15 avait gardé son même niveau de ce qu'on appelle l'intensité énergétique, c'est-à-dire la consommation d'énergie sur le produit intérieur brut, si sur les 30 années qui nous séparent des chocs pétroliers, on avait gardé cette même façon de traiter l'énergie, si je puis dire, on aurait une consommation qui aurait été comme ça. Bon. En fait, la consommation, en réalité, du fait des efforts d'efficacité énergétique, essentiellement, c'est à peu près les trois quarts des résultats, elle a été comme ça. La différence en 2008, c'est-à-dire ce qu'on a gagné sur la consommation d'énergie, est égal à la consommation la même année de pétrole plus de gaz. C'est-à-dire que les économies réalisées ont eu comme résultat de réduire la consommation par rapport à ce qu'elle aurait été d'une quantité absolument considérable, puisque le pétrole plus gaz, c'est à peu près les trois quarts de la consommation de l'Europe actuellement. Donc, cette expérience a montré que ce gisement d'économie d'énergie était absolument considérable. Et quand on parle du 20% d'économie d'énergie au niveau européen, c'est la continuation de ces efforts, sachant que les potentiels sont encore considérables, et vous le savez tous, il y a encore des tas de logements pas isolés, etc. On en a parlé ce matin, et les transports sont encore extrêmement énergivores. Donc ces actions, on est donc capable de les décrire. On est capable d'évaluer à peu près les potentiels, et c'est là-dessus que sont basés, c'est un peu la base des plans climat, c'est de dire, voilà, on peut économiser tant, si on économise tant, ça fait une réduction de gaz à effet de serre de tant, et donc on se donne un objectif de tant de pourcents en 2020, etc., jusqu'au fameux facteur 4, en espérant qu'on pourrait y arriver. Donc la question qui se pose n'est pas tellement de pouvoir définir ce type d'objectif, ni d'évaluer correctement ces potentiels. Ils sont effectivement considérables, et on voit bien qu'ils ont en partie été déjà bien amorcés. C'est bien comment on s'organise pour qu'effectivement ça se réalise. Et donc très vite, et quand on a travaillé sur des plans climat, et en particulier le premier qu'on a fait en France enfin, moi et des collègues, c'était dans le Nord-Pas-de-Calais, ça devait être en 2002 ou quelque chose comme ça, on est très vite passé à la question des moyens humains et des moyens financiers. Les moyens humains, pourquoi ? Parce que ce changement donc de la conception du système énergétique fait que à peu près la moitié des activités va passer sur le niveau de la consommation. L'offre est toujours nécessaire, parce que même si vous baissez, vous avez quand même besoin d'électricité, etc. Mais ça, c'est nouveau. Dans la situation énergétique mondiale, nationale, régionale, au niveau d'une ville, etc., les efforts à faire sont essentiellement des efforts de réduction de la consommation, tout en assurant, comme je l'ai dit, le confort, etc. Donc vous avez des acteurs nouveaux. Avant, c'était un système quand même assez centralisé, d'une part parce qu'une part des énergies vient de l'extérieur et on n'y peut pas grand-chose, et d'autre part parce qu'on construit des grandes centrales, etc. Maintenant, les acteurs, c'est un, les citoyens, chez eux, en fonction de leurs achats, en fonction de leurs possibilités de modifier leur logement, etc. Ce sont les associations qui apportent des informations, qui donnent des conseils, les espaces info-énergie, les agences locales de l'énergie, les municipalités, les départements, etc. Donc vous avez de nouveaux acteurs, et l'essentiel du travail au niveau des responsables, certes c'est la question des réglementations, la question des incitations financières, mais c'est surtout l'organisation de ce partenariat. Et si dans un plan climat il y avait du temps à passer, je pense que ce temps à passer doit être en petite partie tous les bilans, etc., qu'on vous demande, qui sont nécessaires pour faire ces actions, mais sur lesquelles il ne faut pas passer énormément de temps. Par contre, il y a un travail qui n'est pas fait, et qui en général, parce que les gens n'ont pas l'habitude de ça, le travail du partenariat au niveau d'une ville, par exemple, disant, bon, si on veut rénover les logements à Paris ou dans le Barrois ou n'importe où, comment on fait ? J'ai besoin de qui peut coordonner ça ? Quels sont les partenaires ? Si pour le logement privé, il est probable que c'est le prêt à taux zéro qui est l'outil le plus commode. Bon. Comment fait-on pour faire un prêt à taux zéro qui, un, soit utilisé, et qui, deux, ne soit pas utilisé seulement, comme ça a été dit, par les gens qui ont les moyens ? En Picardie, par exemple, le prêt à taux zéro, du fait des négociations avec les banques, parce que ça a été fait avant le prêt à taux zéro national, hein, dans certaines régions, la discussion, la négociation avec les banques a été que pour ce prêt à taux zéro qui est remboursé sur les économies d'énergie, donc une espèce de garantie de remboursement, la contrainte de surendettement ne devait pas être automatiquement prise en compte. C'est-à-dire que vous pouvez, par ce partenariat entre, je dirais, l'autorité régionale, les banques qui gèrent les dossiers de prêt avec lesquels il y a eu donc des négociations sur les conditions de prêt, et les associations professionnelles des artisans et des entreprises qui sont amenées à intervenir, vous pouvez à cette échelle-là définir des conditions dans lesquelles sont prises en compte, par exemple, la question des ménages à bas revenus. Ce sont en plus ceux qui souffrent le plus financièrement de la facture énergétique, puisqu'en général, ils vivent très souvent dans des logements qui ne sont pas isolés. Donc, et vous voyez bien que cette organisation du partenariat n'est pas une organisation du partenariat par rapport à la question climatique. Elle est une organisation du partenariat par rapport à un plan d'action qui prend en compte les critères que j'ai dit dès le début. Le critère énergétique, le critère climatique, le critère du développement économique, puisque vous créez des emplois, etc., et les critères sociaux. Alors, je pense que ça change, d'une certaine façon, ça simplifie les choses pour des responsables territoriaux, parce que je pense que du coup, ils peuvent voir, et ça simplifie les choses aussi au niveau de ce que vous appeliez, entre guillemets, l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire que si, dans le dialogue et dans l'organisation de la concertation avec les citoyens, vous présentez l'ensemble de ces aspects dans lesquels le climat n'est qu'une composante, c'est-à-dire n'est qu'un des résultats attendus, je pense que c'est beaucoup plus compris et que l'adhésion sera plus facile, et en tout cas les gens adhéreront, parce qu'ils verront que dans leur emploi, dans leur situation sociale, dans leur dépense énergétique, etc., il y aura un certain nombre de bénéfices. Et que par conséquent, ça peut être une construction collective et pas une construction qui vient seulement de quelque chose qui est une menace, mais qui n'est pas vécue encore, en tout cas, de façon quotidienne. Alors que la facture énergétique, alors que les questions d'emploi, etc., sont vécues dans l'instant par les gens à qui vous vous adresserez. Et si on arrive à ça, ça évite le grand écueil actuel de la plupart des plans climat, c'est-à-dire ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire qu'il y a un énorme travail amont, il y a, dans les meilleurs cas, enfin, un gros travail de concertation en amont, de réunions pour avoir les besoins, etc. Et puis ça se rétrécit, et finalement, du fait que justement ces questions des moyens humain et financier n'a pas été suffisamment discuté dès le début. La montagne de travail accouche d'une souris, c'est-à-dire on va faire cette année-là quelques projets. Et ça, c'est terrible. Parce que du coup, vous détruisez la crédibilité sur l'argument lui-même. Et donc, moi, dans les cas où je travaille là-dessus, c'était le cas dans les travaux qu'on a fait en Chine, dès le début, on discute des moyens humains et financiers. Ce n'est pas la peine de se fixer des objectifs moins je ne sais pas combien de pourcents si on ne fait pas correspondre au programme d'action des moyens humains et financiers qui permettent de rendre crédible le fait qu'on puisse atteindre ces objectifs. Sinon, vous aurez le phénomène de rejet total. C'est-à-dire, on vous dira, écoutez, bon, parce qu'il faut quand même se souvenir que le facteur 4 a été décidé en France, je crois, en 2004. Hein? Alors chaque fois, on répète le facteur 4, mais ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les 5 prochaines années. Et de façon à créer la dérivée. C'est-à-dire, est-ce que je fais des programmes d'augmentation des logements sociaux et qu'en plus, je les construis de façon telle que la consommation d'énergie et donc les émissions à effet de serre soient faibles? Est-ce que je développe des transports collectifs, ce qui permet à la fois d'améliorer les conditions de vie des gens, ce qui est quand même le premier objectif, et qui en même temps représente tant d'économies d'énergie et tant d'économies de gaz à effet de serre, etc. Et si vous prouvez que vous êtes capable, les 5 premières années, de mettre en place des programmes significatifs qui vous placent sur la bonne trajectoire, votre objectif de 20% sera crédible. Si les 5 premières années, pas grand-chose ne se passe, vous voyez bien que l'enthousiasme, même si vous avez fait des tas de réunions, l'enthousiasme retombera. Bon, je pourrais vous raconter beaucoup de choses, mais je pense que ça suffit peut-être pour lancer la discussion.